Les entreprises face aux limites planétaires. Bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Simon Ricard. Bonjour Simon.
Bonjour Cyrus.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es coprésident de l'Association pour une hydrologie régénérative. C'est d'hydrologie et d'eau dont on va parler. Association que tu coprésides avec Charlène Descollonges, qu'on a d'ailleurs reçue ici sur Plan B il y a quelques mois, dont je viens de finir le livre d'ailleurs, hein, L'eau. De la collection Fake or Not, excellent livre. D'ailleurs, on va re-recevoir Charlène probablement à la rentrée. En attendant, c'est avec toi qu'on va parler d'eau, d'hydrologie et d'agriculture régénérative. Tu travailles également au Permalab, qui est un bureau d'études qui accompagne les acteurs dans leur transition vers l'agriculture et l'hydrologie régénérative. On va faire un peu de pédagogie sur ces notions-là. C'est quoi le problème? C'est quoi les solutions? L'eau est une contrainte assez forte qui pèse de plus en plus sur les entreprises. Il y a 3-4 ans, j'aurais personnellement plutôt parié sur le pétrole, mais il se trouve que c'est l'eau qui contraint un petit peu toutes les activités industrielles, agricoles, les ménages, le tourisme, etc., avec des conflits d'usage que l'on observe maintenant qui sont largement dépassés l'épaisseur du trait. J'ai pour coutume, avant de lancer l'interview, de lire un post qui a retenu mon attention dans la semaine. Et cette semaine, c'est un post sur LinkedIn de Julien Fosse, président du centre INRAE Hauts-de-France, qui régulièrement prend des positions assez fortes en faveur de l'agriculture régénérative. Donc nous le saluons. Et Julien Fosse nous cite cette semaine un article de quelle source? Du Monde, un article du Monde. Il cite, c'est à propos des haies. Selon les chiffres les plus récents révélés par un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux publié en avril, 23 500 km de haies ont disparu chaque année entre 2017 et 2021. Entre 2006 et 2014, l'érosion moyenne n'était que, entre guillemets, de 10 400 km par an. Le phénomène ne se tarit pas, il a même doublé en rythme. Il s'accélère. Au total, depuis 1950, ce sont 70% des haies qui ont été effacées des bocages français, donc depuis le fameux remembrement. Et là, Julien Fosse commente en quelques lignes: l'intérêt écologique des haies a été largement démontré. Elle protège du vent, de la chaleur, stocke du carbone et de l'eau, diminue l'effet des petites crues, lutte contre l'érosion des sols, filtre les polluants, constitue un réservoir de biodiversité, assure la continuité écologique. Elles ont aussi un impact sur le paysage et donc sur le tourisme, mais nombre d'exploitants voient avant tout la haie comme une contrainte qui nécessite de dégager du temps et de l'argent. Fin de citation. Voilà, ça donne le ton, ça va faire partie aussi des sujets qu'on va aborder, mais l'hydrologie régénérative est encore plus complexe que juste replanter des haies, je pense que ça en fait partie. Simon, je te laisse peut-être poursuivre, peut-être pour nous expliquer, c'est quoi l'hydrologie régénérative?
C'est quoi l'hydrologie régénérative? Eh bien, merci Cyrus. Alors, c'est quoi l'hydrologie régénérative? Peut-être un petit feedback personnel d'où est venue cette notion, pourquoi on la propose finalement. C'est d'abord venu de comment dire d'expériences qui à travers le monde autour d'abord de la permaculture et ensuite d'agriculture régénérative, effectivement, où depuis de longues dates on aménage des paysages agricoles en ce qu'on appelle en priorisant la gestion de l'eau. Et c'est valable dans avec pas mal de praticiens qui ont mis ça en place, et un en particulier qui s'appelle Percival Alfred Yeomans, un Australien dans les années 50, qui a mis en place ce qu'on appelle le Key Line Design, et qui est effectivement une méthodologie d'aménagement, de conception d'espaces agricoles régénératifs, dans une visée régénérative, parce que lui travaillait en Australie, dans des milieux arides, voire semi-désertiques, soumis aux contraintes hydriques, évidemment, aux contraintes d'incendie, parce que les écosystèmes étaient secs et asséchés par notamment les pratiques agricoles là-bas. Et lui, il a un peu pris la tendance inverse de comment est-ce qu'on régénère, on crée des espaces agricoles à la fois productifs, à la fois régénératifs, avec une base qui était le sol. L'idée, c'était l'intention, c'est de régénérer les sols, c'est parce que c'est là que ça se passe en termes de stockage d'eau. Mais il a ce qu'il a la, la, son invention, entre guillemets, même si c'est essentiellement du bon sens, c'était que l'importance que chaque goutte d'eau qui tombe sur un terrain, une parcelle, une ferme, reste là où elle tombe, quoi. Et à partir de là, il a commencé à aménager, et parce que la prise en compte du coup des reliefs est extrêmement importante, puisque bah, un des premiers facteurs de perte d'eau, c'est le ruissellement, c'est l'érosion, et le ruissellement, ça va souvent de pair avec les reliefs, puisque l'eau s'écoule dans les pentes, quoi. Et donc, il a commencé à aménager pour justement travailler avec les reliefs pour que par un ensemble d'éléments, des fossés, de ce qu'on appelle des baissières, ou du sous-solage, donc des micro-sillons, ou des haies, effectivement, faire en sorte qu'ils soient implantés avec les reliefs, donc sur courbe de niveau ou autour des courbes de niveau, pour évidemment que l'eau reste, l'eau qui tombe, même si le sol n'est pas encore régénéré, que cette eau reste sur, s'infiltre, reste, et limite les phénomènes d'érosion, et puis reste dans l'écosystème, quoi. Alors c'est un peu plus poussé là, souvent quand je dis ça on me dit oui bon bah c'est ce que faisaient les anciens, ils faisaient des terrasses, ils faisaient des donc ils travaillaient sur courbe de niveau, c'est ce qu'on fait en fait, c'est il a rien inventé de plus. Effectivement, il y a une base de bon sens, pour autant le Killian Design est intéressant parce qu'il a ça a poussé un peu plus loin la réflexion. C'est pas juste travailler sur les courbes de niveau parce que l'agriculture moderne nécessite, on peut plus travailler, on fait plus de terrasse, on fait plus d'agriculture en courbe de niveau parce qu'on a besoin de faire des lignes parallèles pour faire de l'agriculture. On a besoin de passer des tracteurs, même en traction animale, on a besoin de faire des lignes parallèles de tout temps. Et du coup, la Killian Design, c'est une des approches, en tout cas, c'est une juste subtilité entre faire des lignes parallèles, mais des lignes parallèles qui vont suivre le relief. Bon, autrement dit, on prend une courbe de niveau de référence et puis on trace nos sillons de culture en ligne parallèle, en parallèle de cette courbe de niveau. Ce qui fait que ça crée des légers dénivelés et on peut aussi, comme ça, emmener l'eau, guider l'eau, on ralentit l'eau puis on la répartit en fait. L'idée de ça, c'est de la répartir, homogénéiser la distribution de l'eau sur de pluie, de ruissellement sur les surfaces, quoi. C'est une des approches.
D'accord.
Une autre approche, c'était effectivement de créer un ensemble de micro-retenues collinaires. Je parle bien de micro-retenues collinaires, hein, c'est importante. Là aussi répartie dans le paysage, dans des points, de ce qu'on appelle des points clés, d'où le key line, key point, il y a des logiques topographiques derrière ça. Donc de toute l'eau qui est quelque part qui ne s'infiltre pas parce que le sol est encore trop dégradé, même si on a mis en place des choses, et ben pour autant, elle va pas le surplus d'eau quand il pleut beaucoup, et ben il va pas être perdu, il va rejoindre dans des vallées, des micro-retenues collinaires pour recréer de la biodiversité, pour stocker de l'eau, pour infiltrer l'eau, pour des usages aussi d'irrigation, parce que du coup, avec cette approche, il organisait littéralement un paysage aquatique, entre guillemets, c'est-à-dire plein de micro zones d'eau qui connectaient entre elles pour des usages donc d'irrigation et pour favoriser l'accélération de, non pas là aussi pour une irrigation de masse, mais vraiment pour pouvoir avoir de l'eau à disposition dans son écosystème agricole et pour accélérer la régénération, quoi. Donc c'était toute une logique pensée comme ça et tout avec une organisation de la réflexion autour avec effectivement les reliefs, l'eau en priorité et ensuite les accès, les arbres, les infrastructures, tous les éléments d'un paysage agricole sont pensés, organisés autour de la circulation de l'eau, quoi. Et donc pour en revenir à l'hydrologie régénérative et finir là-dessus, moi je me suis formé à l'étranger, notamment au Mexique, avec ce genre d'approche, parce que il y a 5-6 ans, quand je me suis intéressé à ça, j'ai vu qu'il y avait très peu de notions, très peu d'expérience française, très peu de notions en francophone autour de toutes ces approches, du Killian Design, de la gestion de l'eau, la permaculture et tout ça. C'était très anglophone, très hispanophone, donc je suis allé à l'étranger pour me former. Et en revenant en France, il y avait toujours aussi peu de notions traduites et d'expérience. Et effectivement, on s'est rendu compte, je ne suis pas le seul à être plusieurs praticiens, pionniers de toutes ces approches en France, on s'est rendu compte que notamment le terme Killian Design allait être complètement imperméable au monde francophone, aux agriculteurs francophones, donc d'où cette notion d'hydrologie régénérative, parce que c'est vraiment l'hydrologie dans le sens, la science de l'eau et des écoulements d'eau régénératif appliqué dans une forme de régénération du cycle de l'eau, parce que c'est ce qu'on cherche à faire finalement. On cherche à par l'aménagement, faire en sorte que l'eau qui, d'abord, déjà c'est une priorité, l'eau qui tombe dans à la parcelle, au terrain, elle reste à la parcelle, au terrain, quoi. Et par là, elle s'infiltre, elle bénéficie, elle crée des zones humides, elle bénéficie au sol, à la végétation, elle repart en évapotranspiration. Donc, autrement dit, elle réalimente les petits cycles de l'eau, notamment, ou le grand cycle de l'eau par l'infiltration et par la recharge des nappes, en particulier, quoi. Donc c'est voilà, donc derrière, alors régénératif, hein, c'est un peu utilisé à toutes les sauces maintenant, disons agriculture générative, tout ça, mais effectivement c'est bien la logique qu'il y a derrière, quoi. On cherche vraiment,
oui, à remettre de la vie dans le sol,
le sol,
les passer d'un état où il y a peu de vie à un état où il y a de la vie. Le terme régénération me choque pas plus que ça.
Voilà, c'est ça, et donc c'est on considère que c'est pertinent d'avoir cette vision, et du coup quelque part pour emmener aussi cette hydrologie, parce qu'on manque pas de science, de compétences, de connaissances autour de l'hydrologie, mais quelque part pour la diriger vers cette une vision, en tout cas, de cette régénération du cycle de l'eau par l'aménagement, ce qui manque probablement encore dans notre contexte.
Ouais. Question néophyte, ou alors je m'intéresse au sujet de l'agriculture régénérative, mais je n'avais jamais pensé à l'aspect relief que tu as pas mal cité. Est-ce que quelque chose comme les keyline design, ça s'applique forcément à des terrains à fort relief, par exemple, j'en sais rien, des prairies pour l'élevage, ou autre, bon, parce que c'est là que ça ruisselle le plus. Est-ce que ça s'applique aussi à des terrains tout plats, entre guillemets, comme les grandes cultures dans la Beauce, voilà, enfin,
ouais. Est-ce que c'est... C'est souvent la question qui revient. Tu n'étais pas le premier à la poser, à juste titre, évidemment, parce que c'est vrai qu'on voit des images autour du keyline design, on a l'impression que c'est effectivement que dans les reliefs, quoi, que ça se passe, ou des terrasses comme ça, mais alors que non, effectivement. La logique, c'est de dire que déjà, de toute façon, qu'il y a un terrain plat, vraiment plat, ça existe. Enfin, il y en a évidemment, mais c'est rare. Hein, il y a toujours des micro-reliefs. Des micro-reliefs ou des micro-pentes dans des terrains plats. Il n'y a pas tant que ça de terrains vraiment plats. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi des formes d'écoulement. Et en quelque part, au-delà du et encore une fois, on ne parle pas que l'hydrologie régénérative, derrière, c'est pas juste pour gérer de l'eau, quoi. C'est pour, et c'est dans la logique du keyline design notamment, mais quelque part de toutes les approches agroécologiques et d'agriculture régénérative, quoi. C'est de recréer un écosystème complexe avec justement des arbres dont on parlait, des haies dont on parlait à l'instant, un sol vivant, des zones humides, bref, recréer un paysage comme ça, parce que on sait, et le poste en parlait très bien, tous les intérêts que ça a. Donc il y a une logique derrière de replanter des arbres, de recréer du sol. Donc quelque part, et c'est l'autre point que je veux aborder dans notre approche autour de l'hydrologie régénérative, mais d'une manière générale d'aménagement de paysages, d'espaces régénératifs, avec ce qu'on fait avec Permala, par exemple, on a un triptyque, c'est l'eau, le sol, l'arbre. Eau, sol, arbre. On pense toujours, et il faut toujours penser, je me permets de dire il faut toujours penser avec ces trois en même temps. L'eau, donc la gestion de l'eau, la gestion des écoulements, des ruissellements d'eau, hein, même sur des terrains... plat, il y a toujours des fossés périphériques aux parcelles, il y a toujours des fossés le long des routes, donc il y a toujours des écoulements. On a beaucoup drainé aussi, on pourra sûrement en reparler, on a beaucoup drainé les paysages agricoles de tout temps, et ça s'est accéléré d'autant plus dans les dernières décennies. Donc ça veut dire qu'il y a, même s'il n'y a pas de ruissellement de surface, parce que pas de pente, ou peu de pente, il y a des écoulements d'eau, des chemins de l'eau, et quelque part c'est voir où sont ces chemins de l'eau, pour quelque part non plus évacuer l'eau, ou faire en sorte que l'eau s'évacue rapidement et rejoigne rapidement le réseau hydrographique, c'est souvent le cas même dans des paysages plats, mais par contre créer une succession de zones tampons autour des fossés, autour des zones de drainage par exemple, pour créer une succession de micro-mares, de zones qui vont favoriser l'infiltration, la présence de l'eau dans l'écosystème, quoi. Donc même en terrain plat, il peut y avoir cette logique. Donc eau, donc c'est gérer tous ces ruissellements pour faire en sorte de ce qu'on appelle ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau. C'est un peu le quatuor du premier triptyque là. Et donc effectivement sol, c'est après toutes les pratiques qui vont permettre de régénérer le sol, couverts végétaux, pâturage tournant dynamique, toutes les formes d'agriculture de conservation, maraîchage sur sol vivant, tout ça. Et puis arbre, évidemment, c'est le troisième levier majeur pour la gestion de l'eau, la résilience hydrique à moyen long terme, parce que bah, effectivement, c'est ça qui fait les arbres, qui assure l'évapotranspiration importante, qui assure les effets d'ombrage, qui assure les microclimats qui vont moins assécher, qui assure l'infiltration, bref, qui assure plein de choses. Si juste sur le paramètre eau et autour de l'eau, les arbres, sans parler de tous les autres intérêts, assure une grande partie, enfin plein de fonctions qui sont cruciales de réimplanter pour le long terme, parce qu'effectivement quand on replante des arbres, et malheureusement les chiffres des haies qui sont supprimées, c'est dramatique, parce que quelque part là, même si on replante des arbres tout de suite, ils vont être efficients, on va dire, d'un point de vue écosystémique et hydrique en particulier, que à 10, 15, 20 ans, alors qu'on en aura besoin rapidement. Donc il faut les penser, et c'est pour ça qu'on pense aménagement, conception, design d'espace agricole, de ferme. On pense avec ce triptyque eau, sol, arbre, parce que on pense court terme avec, en gérant tout de suite l'eau de ruissellement avec des ouvrages. On pense court moyen terme en mettant des couverts végétaux, en faisant des pratiques qui vont relativement rapidement améliorer la situation au niveau des ruissellements, d'infiltration, tout ça. Et on pense en même temps long terme avec les arbres qui, eux, vont vraiment prendre le relais sur la gestion de l'eau à moyen long terme, quoi. Au bout d'un moment, on n'aura plus besoin d'avoir des fossés, des baissières, des surcourbes de niveau, tout ça, parce que quelque part, il y aura un sol riche et des arbres et des haies implantées qui elles-mêmes rejoueront ce rôle de gestion de l'eau, quoi. Mais on pense court et long terme
Les haies qu'on arrache rendent bien plus de services que celles qu'on replante. Alors déjà, on arrache plus qu'on ne replante.
Et en plus,
l'écart est même assez important. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est important. Ce qu'on replante ne rendra des services écosystémiques pleinement que dans des décennies. Et en plus, dans certains cas, malheureusement, ce qu'on replante, c'est assez étroit. Alors c'est long pour pouvoir toucher les aides liées aux haies, mais c'est dans certains cas sans pointer du doigt, mais particulièrement étroit. Donc voilà, ça ne rendra pas forcément des services écosystémiques à la hauteur de ce qui est arraché, quoi.
Effectivement, ouais, nous,
Est-ce que je voulais dire, comment tu mesures la performance d'un terrain qui se reconvertit avec succès à l'hydrologie régénérative? Est-ce que c'est la porosité du sol, le taux de matière organique? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, on a réussi?
Alors voilà, c'est une autre bonne question qu'on nous pose souvent. Comment on mesure? Qu'est-ce qui montre que ça marche? Les expériences aux États-Unis, en Australie, est-ce qu'on a eu du suivi pour montrer? Et c'est là que le bât blesse encore un petit peu d'un point de vue vraiment purement hydrologique et hydrologie régénérative, parce que effectivement, il y a pas encore beaucoup de suivi. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, c'est un des objets de l'association, des intentions de l'association, entre autres, pour une hydrologie régénérative, c'est justement d'organiser le suivi méthodologique avec des chercheurs, avec des scientifiques, pour monitorer, mesurer, voir effectivement, on crée un fossé en courbe sur courbe de niveau. Comment ça, l'humidité dans le sol évolue plus ou moins rapidement au niveau du fossé en aval. Donc c'est des choses qu'on veut arriver à mettre en place, quelle quantité d'eau quelque part on conserve. Après tout ce que tu as mentionné, notamment la porosité des sols et tout. Et tout ça vraiment sur l'aspect sol agronomique, on va dire, c'est pas directement lié à l'hydrologie régénérative, parce que c'est déjà des paramètres qu'on mesure avec par les changements de pratiques agricoles, et c'est quelque part, c'est déjà monitoré, mesuré, tout ça, hein. Il n'y a pas forcément besoin dans soi de l'hydrologie régénérative d'aménager. On sait déjà que et on prend deux parcelles, et c'est déjà largement testé. On prend deux parcelles, on les fait évoluer, une en conventionnel, entre guillemets conventionnel, labour éventuellement, et une autre avec des couverts végétaux, par exemple, et on voit assez rapidement que le taux de matière organique augmente, donc ça c'est un des paramètres, le taux de matière organique, la porosité, le nombre, la quantité de vers de terre, hein, un des paramètres c'est la quantité de vers de terre qu'on mesure. Donc voilà, ça c'est vraiment des approches agronomiques, et c'est pour ça que c'est pas forcément évident aussi à mesurer, parce que toutes ces approches d'hydrologie régénérative, parce que c'est foncièrement écosystémique, enfin systémique, avec plusieurs paramètres, quoi. Et même si on fait une baissière ou une mare ou quelque chose, on va pouvoir voir des choses. Mais si à côté de ça, si je caricature un peu, on continue à labourer profond, on va rater un coche, quoi. Et c'est pour ça que je parle du triptyque, c'est vraiment les trois à la fois, parce que c'est ça qui va créer cet effet écosystémique. Donc voilà, pour autant, on va essayer de mettre en place, et d'autres vont essayer de le faire, justement à la fois dans des phénomènes de modélisation. On modélise des terrains avec des implantations en keyline design, et on simule des pluies, et on voit que l'eau, est plutôt que de partir en bonne partie en bas, reste, s'infiltre et tout ça. Ça, c'est des formes de choses qui sont déjà faites et qui montrent leur preuve. Et après, c'est l'étape suivante, c'est de dire, voilà, combien d'eau, par rapport à l'eau qui tombe, combien d'eau reste à l'écosystème, combien d'eau est stockée éventuellement dans des ouvrages, combien d'eau s'infiltre, et cette eau, est-ce qu'elle charge, recharge, et surtout aussi dans quel contexte, quoi, parce qu'en fait, on a une diversité de contextes entre des sols profonds, peu profonds, infiltrants, pas infiltrants, argileux, sableux, tout ça, qui vont faire que qu'il faut mesurer aussi en fonction des bons paramètres, quoi. Donc des fois, et c'est dessous. Le problème qu'on veut dire qu'on peut rencontrer, c'est que si on des fois c'est plus facile de mesurer, de prendre une parcelle et de faire du travail que à la parcelle, de dire on teste un sur une parcelle, on teste un tout sur la parcelle, on peut mesurer facilement l'effet d'une haie aussi, hein, on peut mesurer, voilà, on implante les arbres, ça se passe à la parcelle. Dès qu'on est dans une approche d'hydrologie régénérative, en général, on pense déjà plus large, parce qu'il faut penser aussi les écoulements en amont, donc un peu le bassin versant. Donc, c'est la ferme du voisin, c'est le cours d'eau en aval, donc c'est plus écosystémique, c'est plus presque territorial, et donc c'est parfois un peu plus difficile à mesurer, à sortir des éléments de comparaison stricto sensu, quoi. Donc, et surtout plus difficile à mettre en place. Mais voilà, il y a tout un courant, et c'est peut-être le travail de la décennie qui vient, surtout au regard des problématiques d'eau actuellement, c'est de voir comment on peut avoir une vraie efficience, donc prendre ces approches un peu empiriques qui existent depuis longtemps, et les scientifiser, on va dire, avec une vraie approche hydrologique, agronomique, hydrogéologique, pourquoi pas, et de caractériser tout ça d'un point de vue de technique scientifique pour pouvoir leur répondre beaucoup plus rapidement encore prochainement.
Non, tout à fait. Je voulais passer très bientôt aux aspects très pratique de comment on accompagne, ouais, les agriculteurs, les producteurs dans ce genre de transition. J'imagine que c'est aussi ça ton activité, ton bureau d'études et ton association. Avant ça, dernier point sur les concepts, il y a un terme, il me semble, qu'on n'a pas encore prononcé au bout de 22 minutes, et c'est assez fou, le terme de climat.
Oui.
Parlons-en quand même un petit peu. Quand même, c'est important. D'après ma compréhension, alors, les avantages qu'offre cette approche, c'est une meilleure résilience climatique face aux événements extrêmes, donc canicule, sécheresse, inondation. Donc, ça régule tout ça, ça fait tampon. Pour, on va dire, face à ces dérèglements du cycle de l'eau, mais aussi toujours en termes d'adaptation au changement climatique, ça apporte un service quand même de rafraîchissement du climat local, hein. On remet de la végétation, alors déjà l'agriculture de conservation et des couverts végétaux permanents, ça apporte ça. J'imagine que l'hydrologie régénérative renforce cela, donc remettre de l'eau dans le sol, remettre de la végétation et ramener de la fraîcheur localement, et ce avec des effets qui peuvent être assez immédiats. Alors évidemment, ça, faut pas tout mélanger, ça ne dispense pas de diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour que à plus long terme le climat cesse de dériver, mais ça c'est des effets de long terme. En attendant ça, il me semble qu'on peut avoir bienfaits assez, enfin, sous 5-10 ans, j'en sais rien, en termes de fraîcheur.
Oui, c'est pas qu'une petite parenthèse, faut vraiment qu'on en parle. Alors oui, plusieurs choses. Effectivement, au-delà de l'hydrologie régénérative, toute la logique de régénération des écosystèmes, en fait, et des écosystèmes agricoles, nos écosystèmes agricoles en particulier, vont clairement avoir un effet microclimatique, hein, ça a été mentionné là, non. Les haies créent de l'ombre, de la mi-ombre, l'agroforesterie intraparcellaire, donc il y a les haies périphériques aux parcelles, et puis il y a l'agroforesterie intraparcellaire, c'est-à-dire remettre des arbres dans les parcelles. Pour la plupart des systèmes de culture, hein, on peut remettre des arbres dans les parcelles comme il y avait avant, mais là on le remet en le pensant de manière moderne, quoi, c'est-à-dire avec des itinéraires techniques, des implantations pensées pour notamment garder la mécanisation, et donc remettre ces agroforestes intraparcellaires Là aussi, il y a de la mi-onde qui est créée. Il y a des effets en termes de matière organique, en termes d'évapotranspiration, qui va avoir un effet donc à la fois microclimatique, mais on est en train de se rendre compte. Quand je dis on, c'est il y a un peu un consensus scientifique qui est en train d'être établi. Quand je dis en train, c'est peut-être pas encore complètement acquis de globalement, mais depuis une bonne vingtaine d'années, notamment autour à partir des travaux autour de la pompe biotique de chercheurs russes, entre autres, qui ont montré, on en parlait de plus en plus, qui ont montré le rôle des forêts sur le climat par l'évapotranspiration, entre autres, hein, qui génère de la pluie localement et dans les continents, quoi, si je fais très simple. Et en fait, on se rend compte que effectivement, il n'y a pas que les forêts, c'est en fait la végétation en règle générale. La végétation multi-étagée en règle générale a aussi cet effet et du coup a une forme de régulation à la fois sur les précipitations, peut générer littéralement de la précipitation quoi localement ou plus loin, et effectivement il y a un effet aussi de rafraîchissement climatique parce que entre un sol nu, un sol artificialisé, un sol avec peu de végétation et un sol au contraire relativement végétalisé, c'est pas les mêmes effets. Donc on parle de réchauffement climatique. Donc là, il y a potentiellement avec la revégétalisation et en même temps conserver l'eau dans les paysages, hein, ça va de pair. Et ben c'est potentiellement plus que de l'atténuation, quoi. C'est une forme de rafraîchissement climatique, quoi. Notamment parce que au-dessus de telles surfaces, l'évapotranspiration est plus importante, donc la création de nuages est aussi plus importante. Je schématise un peu, hein, mais c'est ça. Création de nuages est plus importante, elle est plus basse en altitude, et qui dit plus basse en altitude dit que les phénomènes de rayonnement sont moins importants. C'est-à-dire que, pour faire simple, plus les nuages sont créés à basse altitude, parce que a priori au-dessus de surfaces largement végétalisées, au plus ils vont être rafraîchissants, entre guillemets. À l'inverse, au-dessus de surfaces sèches, asséchées, artificialisées, en grande surface, les nuages se créent moins, plus en hauteur, et ils ont plus un effet réchauffant, quoi. Donc, il y a ces notions qui sont en train d'être à l'arrivée, certainement encore besoin d'être caractérisées, d'avoir un consensus scientifique là-dessus, mais quelque part, tout ça pour dire que au plus, on va aller vers cette régénération systémique. Donc, ça se passe au niveau du sol et de la végétation. Ça se passe pas en termes d'émissions ou quoi que ce soit. C'est des choses sur lesquelles on peut agir immédiatement ou à court et long terme pour avoir effectivement un effet régulateur sur le climat, sur les précipitations. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement, tu mentionnais, ça régule. Oui, plus que ça régule, en fait, en termes d'inondations, de sécheresse, un peu le... Et je le redis, et ça, enfin, ça commence à émerger. Le duo inondation-sécheresse, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Il faut le voir comme ça. Là où il y a de la sécheresse, de l'aridité, tout ça, il y aura des inondations tôt ou tard, quoi. Parce que, et foncièrement, ce sont des paysages, des bassins versants, des terrains qui ne sont plus en capacité de retenir l'eau quand elle tombe. C'est ça qui crée des inondations. Au-delà du réchauffement climatique, des épisodes extrêmes, quelque part, les épisodes extrêmes dus au réchauffement climatique, exacerbe un phénomène qui est que les paysages ne retiennent pas l'eau, ne sont plus aménagés, ou on voit au pire même ont été organisés pour évacuer l'eau, et donc ça crée forcément de l'eau, trop d'eau en aval, ouais. Et des phénomènes d'inondation.
Quand les sols sont imperméabilisés, on va à la fois avoir des sécheresses parce qu'ils font moins éponge, et on va avoir des inondations parce que ils font moins éponge.
Ils font moins, exactement, tout à fait.
C'est ça. J'aurais dû l'expliquer comme tu viens de le faire. J'ai donné une conférence récemment où j'ai essayé d'expliquer pour une énième fois cette histoire d'inondation, sécheresse, qui, en plus, les deux mettent une pression sur les sols, et j'aurais dû dire, en fait, c'est deux faces d'une même pièce.
Exactement.
Avant de te laisser poursuivre, ouais. J'ai trouvé un passage justement de ce fameux livre, L'eau de oui. Notre ami et ta collègue Charlène, sur le fait que les forêts créent leur pluie. Les forêts créent leur pluie, et dans des proportions que je ne soupçonnais pas forcément. Juste, je cite un passage. Sur les continents, l'eau s'évapore depuis le sol et les végétaux, on l'a dit. Les deux tiers des pluies, donc continentales, proviennent de l'évaporation terrestre, et notamment de la transpiration des végétaux. C'est beaucoup. Donc le reste, j'imagine, des océans, le reste des deux tiers. Voilà, aux parenthèses refermées, effectivement, il y a des études à la pluie, pas à la pluie, il y a des études à la pluie. Voilà, je te laisse poursuivre, pardon.
Oui, ouais, c'est important de lire, et c'est important de préciser aussi que c'est pas que les forêts, c'est un peu là l'aspect médiatique qu'on entend actuellement. Oui, les rivières volantes en Amazonie, oui, la forêt, machin. Oui, évidemment, mais c'est pas que la forêt, c'est vraiment la végétation générale, donc les paysages agroforestiers, c'est-à-dire avec bocager, hein, quand on parle du bocage, c'est pas juste le bocage en Normandie comme ça, c'est bocage, c'est des parcelles agricoles qui sont ceinturées avec par des haies et avec une continuité paysagère et écologique depuis les cours d'eau, les ripisylves, hein, les zones autour des cours d'eau, jusqu'aux crêtes, donc vraiment une continuité par des haies, ce qui est ça qui a été largement endommagé, voire réduit avec depuis des années. Donc ça a créé des discontinuités aussi écologiques, et ça a créé une discontinuité aussi effectivement en termes de végétalisation des parcelles, plus effectivement le travail du sol, et érosion, compaction, tout ça, les parcelles trop désherbées, hein, en viticulture par exemple, ça a longtemps été comme ça, il fallait faire propre. Il y a quelque chose, il y a des paradigmes aussi à changer. Donc ce double combo, moins de sol à nu, sol dégradé, tout ça, supprimé, continuité de haies supprimée, fait que ce sont des paysages qui sont secs, asséchants, et que, alors, l'inverse, c'est-à-dire un paysage avec de la végétation, des prairies notamment, ou des surfaces de cultures avec une continuité de couverture végétale aussi longue que possible, hein, c'est pas toujours facile, mais c'est, on peut le faire. Plus des haies, eh ben ça va recréer un paysage non pas forestier, mais qui va avoir son effet largement sur le, aussi en termes d'évaporation, d'évapotranspiration, et son effet sur le climat. Donc c'est pas que les forêts, c'est aussi ces paysages, parce que l'enjeu, on va pas reforester la France, on va pas reforester le monde, sinon il faut qu'on continue à nous avoir nos espaces de culture et tout ça. Mais par contre, donc si on pense que ça, si on pense que c'est que la forêt, bah zut, on va pas, on a quel est le levier? Le levier, c'est les sols, la végétation et la continuité agroforestière, plus les zones humides et tout ça. Sur le paysage, quoi. Donc ça, c'est effectivement un point important. Et puis donc, juste pour terminer sur cet aspect inondation sécheresse, effectivement, c'est ça va de pair. Si tu l'as nommé, c'est éponge. C'est un plus qu'un sol éponge, c'est un territoire éponge. Donc, et un territoire éponge, ça se recrée avec plusieurs approches. Hein, évidemment, améliorer la qualité des sols, couvrir les sols, mais aussi dans un premier temps, surtout quand on parle de sols dégradés, de paysages dégradés, eh ben, il y a besoin justement de créer des micro-ouvrages, des fossés, des tout ça, pour tout de suite ralentir et infiltrer l'eau, quoi. Et effectivement, ça peut avoir des effets systémiques rapides. Là, d'un point de vue des, comment dire, de la ressource en eau, parce que voilà, on parle de plus en plus de pénurie d'eau, de sécheresse, de manque d'eau, c'est en lien avec effectivement les sols, les nappes aussi qui s'assèchent. Tout ça, c'est lié, et ce qui relie tout ça, c'est le sol, et c'est ce qui se passe au niveau de la surface, entre autres. Et pour mentionner un exemple en Inde, un exemple que je mentionne souvent, il y a une vidéo, hein, que tu t'es sûrement tagué pour que tu la vois, et qui est assez emblématique, où effectivement c'est un village, ils ont fait ça dans plusieurs villages, un village qui rencontrait de plus en plus des pénuries d'eau, c'est-à-dire il y avait plus d'eau dans les puits, dans les sources, tout ça, donc plus d'eau pour irriguer, plus d'eau potable, ils étaient obligés de faire venir des camions de la ville pour assurer le minimum d'eau potable à certains moments, chose qu'en France on commence à connaître, entre parenthèses, c'est plus que dans le tiers monde entre guillemets. Il y a une fondation, pas Annie Fondation, la fondation de l'eau, qui a mis en place, et depuis plusieurs années déjà, un programme pour transformer les paysages, pour passer littéralement de la sécheresse à la prospérité. Et donc, lutter contre les problèmes de manque d'eau, de sécheresse, tout ça. Et comment ils font là-bas? Ils ont fait là-bas. Donc, il y a la commune, le village, il est un peu en aval d'un bassin versant. Donc, il y a une dizaine de kilomètres carrés d'un bassin versant en amont avec des prairies sèches et des pentes. Et là-bas, ils ont bardé littéralement tout le bassin versant en amont d'un ensemble de fossés très régulièrement sur courbe de niveau, d'un ensemble d'ouvrages comme ça, de bassins, de micro-bassins, de micro-retenues, fait soit à la main, soit avec des pelles mécaniques, mais à peu de, voilà, globalement à peu de moyens, mais par contre à une ampleur très importante, qui fait que toutes les eaux de la mousson, les eaux là-bas tombent pendant 2 mois, 3 mois, puis après c'est sec pendant 10 mois, que toutes les eaux de la mousson, plutôt que avant, ce qui se passait, c'est que parce que sol dégradé, parce que manque d'arbres, parce que manque de ce genre d'ouvrage, et ben une bonne partie de l'eau a été évacuée et ruisselée vers l'aval. Là, toute l'eau de la mousson est retenue dans une succession comme ça de micro-fossés. Ils ont fait ça d'une année, ils ont mis ça en place pendant 2 mois, là, tous ces ouvrages. Et l'année suivante, ils ont littéralement, alors, à peu de choses près, en tout cas, et à voir d'un peu plus près, la vidéo a l'air d'être assez dithyrambique sur les résultats, mais la logique est intéressante en tout cas. C'est-à-dire que toute cette eau s'est infiltré, a rechargé les nappes superficielles notamment, et quelque part les sources se sont remis à couler, ils ont rechargé leur puits, ils ont eu des ouvrages pour qui ont conservé l'eau en surface, mais la logique c'était d'infiltrer un maximum d'eau pour recharger les nappes, quoi. Et l'année suivante, ils se sont retrouvés avec de l'eau là suffisamment parce que les nappes se sont rechargées, les puits se sont rechargés, les sources ont commencé à recouler, et ils ont eu à nouveau de l'eau suffisamment pour leurs besoins domestiques et aussi pour l'agriculture, pour pouvoir cultiver plus longtemps, donc produire à la fois de la nourriture et à la fois de la biomasse et à la fois de la végétation qui elle-même crée de l'évapotranspiration et donc a un effet climatique. Et donc, à la fois, ils ont réglé les problèmes d'eau, de manque d'eau, en rechargeant les nappes par un travail d'ampleur, et je précise bien d'ampleur, en amont dans le bassin versant, et à la fois, et donc ça, c'est un chercheur là en climatologie là qui montre ça, Cédric Cabrol, je le mentionne parce qu'il fait un travail très intéressant, qui montre ça, il a étudié l'impact au niveau des températures sur cette commune là, enfin sur ce village. Il a évalué donc là à part les suivis de satellitaires et tout ça, les suivis de température, il a évalué regardé l'évolution climatique sur ce lieu. On voit l'effet climatique de tous ces travaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des températures qui sont repassées en dessous des normales de saison pour la zone par rapport à d'autres zones qui avaient pas mis ça en place. On voyait une différence entre les deux. Et donc il a sur plusieurs indicateurs il a constaté qu'il y a eu une baisse des températures, meilleure humidité des sols, tous les indicateurs qui nous intéressent sont positifs à partir du moment où ils ont mis en place ça, quoi. Donc effectivement il peut y avoir des effets à relatif court terme à partir du moment où on organise, on aménage et on va faire en sorte de manière encore une fois massive, faire en sorte que l'eau qui tombe elle reste dans l'écosystème et que on rentre dans une dynamique de revégétalisation, régénération des sols, replantation d'arbres et tout ça. On peut avoir un effet systémique rapide et tout ce qu'on et pour finir là-dessus par rapport au climat, tout ce qu'on met en exergue à mon goût un peu trop de sécheresse, inondation, c'est le réchauffement climatique. Oui. Et non, parce que sécheresse et inondation, c'est d'abord des écosystèmes qui ne sont pas en capacité de retenir l'eau, quoi. Donc, agissons là-dessus, et il va y avoir des effets sur l'écosystème et sur ce qu'on considère comme être les conséquences du réchauffement climatique, quoi. Donc là, il y a un vrai levier à 5, 10, 15, 20 ans, avant 2050, qui est à activer largement, versus évidemment les émissions, la baisse des émissions, tout ça, je te rejoins là-dessus, mais à trop sonner l'alarme émissions CO2 2050-2100, on va garder le coche et largement le coche de l'agroécologie, la régénération des écosystèmes, qui sont tout autant des solutions prônées par le GIEC, hein, le rapport du GIEC, dernier rapport,
oui,
GIEC
avec les solutions. Dans le rapport du groupe 2, dans les leviers d'adaptation, il y a tout à fait...
Absolument, il y a agroécologie, agroécologie, agroforesterie, zone humide, tout ça, c'est de la agroécologie, mais quelque part, c'est un peu, à mon sens, encore, c'est un peu ma vision, c'est un peu mélangé tout au même niveau, alors que sécheresse, inondation notamment, et canicule, ça va te perdre, tout ce qui est lié autour de l'eau et du microclimat, eh ben, il y a ce levier majeur qui est activable et qui doit être activé. Parce que voilà, si on aura beau diminuer nos émissions ou et même économiser l'eau dans le désert, on va pas transformer le désert, quoi. Et l'enjeu, c'est de transformer le désert. Et comment on transforme le désert? Et il y a des exemples qui font ça. Eh ben, on retient l'eau quand elle tombe, on améliore la matière organique, on plante des arbres. Des fois, c'est difficile, c'est contraignant dans certains écosystèmes, mais c'est faisable partout. Et c'est là aussi le message qui est à faire passer, hein, de autour de la permaculture, l'agroécologie, toute la régénération des écosystèmes, c'est que dans les zones les plus désertiques, il y a moult exemples dans le monde et de tout temps, on peut, par une action pensée, réfléchie et régénérer, inverser les formes de désertification et qui seront toujours autour de la même logique eau, sol, arbre, ce sera toujours le triptyque et qu'il faut activer les trois en même temps pour avoir l'action la plus efficiente, d'autant plus que le contexte est désertifié, quoi. Donc en Espagne, actuellement, on parle de l'Espagne, des zones méditerranéennes qui sont en train de se désertifier. Oui, c'est en train de se désertifier. Oui, le réchauffement climatique a une raison à ça, ouais, une cause de ça. Mais d'abord, la cause de la désertification d'un territoire, c'est d'abord parce qu'on a dévégétalisé, déboisé, des pratiques agricoles qui ont abîmé les sols, mmh. Et organiser le drainage de l'eau, l'évacuation de l'eau, soit pas fait en sorte que l'eau reste par tout ce qui est.
Parce que ce que je me dis, c'est que le changement climatique accentue et met en lumière une mort lente qui était déjà à l'œuvre des écosystèmes. Donc c'était déjà en cours et le changement climatique fait
dépasser
la chose de l'épaisseur du trait et la rend soudainement plus visible. Et que par ailleurs, si on n'avait pas entraîné cette mort lente des écosystèmes, le changement climatique se passerait moins mal.
Enfin, certainement.
Le changement climatique d'origine. Certainement. Humaine, voilà. Il se passerait moins mal. Je veux bien qu'on prenne le dernier quart d'heure pour parler quand même de l'accompagnement de tout ce monde, tous ces acteurs vers ce nouveau paradigme. Donc, on parle d'un univers d'entreprise quand même assez conséquent. Bon, déjà, il y a les exploitations agricoles. Bon, ça, évidemment, oui. Il y a une transformation à faire. Il y a toute la chaîne agroalimentaire à sensibiliser à minima, donc les transformateurs, les consommateurs, etc. Comme si j'avais pas mangé ma petite baguette ce matin, je serais de bien plus mauvaise humeur et cette interview serait moins de bonne qualité. Enfin, tout ça pour dire qu'on est tous concernés par l'alimentation, donc toutes les entreprises de près ou de loin le sont. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que le monde de l'agriculture, mais aussi le monde de l'urbanisme. Comment on aménage les villes? On va pas parler en long en large du zéro artificialisation net, mais c'est une autre manière de penser la ville, cesser d'artificialiser, de bétonner, là aussi recréer des cycles de l'eau et des sols vivants en périphérie des villes, plutôt que les bétonner. Une fois qu'on a dit tout ça, en quoi va consister ton travail? J'imagine déjà qu'il faut sensibiliser tout un tas d'acteurs, à commencer par le monde agricole, à tout le paradigme que tu viens de nous décrire. Voilà, est-ce qu'ils sont plus ou moins réceptifs, etc. Et deuxièmement, quand bien même ils seraient réceptifs, comment on opère une transition, comment on accompagne les acteurs, c'est quoi les coûts, les risques qu'on prend,
voilà. D'accord. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Alors juste peut-être la petite parenthèse sur l'aspect urbain. Effectivement, je vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais là encore une fois, c'est la même logique en fait, hein. Retenir 100% d'infiltration, on cherche à infiltrer, à recréer des villes éponges, hein. On parlait tout à l'heure de territoire éponge, mais là aussi, hein, c'est la même logique, éponge. Retenir l'eau quand elle tombe, infiltrer l'eau à la zone, à la parcelle, tout ça, limiter les ruissellements et effectivement revégétaliser sol, arbre, on a toujours quelque part le même triptyque. Et même en réalité, il y a déjà de l'expérience, même si ça peut-être tarde à arriver, en fait, il y a déjà largement de l'expérience autour de ça, quoi. Il y a de l'ingénierie, de la connaissance. Des bureaux d'études qui accompagnent autour de la gestion des eaux pluviales en ville. Enfin, c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a des exemples, des expériences dans le monde aussi. Donc cette ville éponge, c'est une logique qui est déjà largement en place. Et moi, ce que je cherche ce qu'on cherche à diffuser comme image et comme vision, c'est de cette logique qu'on fait en urbanisme en ville, qu'on peut faire, en fait, de l'appliquer à l'ensemble des bassins versants, à l'ensemble des territoires, quoi. C'est-à-dire de faire des bassins versants des territoires qui sont éponges par la même logique en ralentissant l'eau et tout ça, quoi. Et parce que voilà, en gros, si on transforme juste les villes, on fait que des villes éponges, c'est pour autant, on va pas régler le problème parce que si on garde des bassins versants qui sont désertifiant, quoi, si je prends un petit peu
la ville fonctionne pas en vase clos, elle est dans un système.
Exactement, quoi. Et au contraire, même, on a plutôt intérêt à agir sur la grande surface qui est évidemment en amont que sur la petite surface, si je dois forcer le trait, même s'il faut agir partout. Donc ça, c'est un premier point. Alors nous, notre expérience effectivement avec Permalab, donc un bureau d'études hein, et d'autres qui font ça aussi, c'est effectivement c'est d'avoir nos clients, on va dire, c'est des agriculteurs ou des souvent de plus en plus des gens en projet en installation ou en transformation, en reprise quoi, ou des entreprises agricoles quoi, c'est-à-dire des entreprises de l'agroalimentaire, on va dire, qui ou des acteurs importants qui ont des terres qui font de l'agriculture, comme des groupes viticoles par exemple. Et donc là, bah pareil, en fait, c'est souvent on part du constat, quoi. Et le constat, il est souvent toujours le même érosion, perte de matière organique, ruissellement. Je pense en viticulture notamment, c'est souvent le cas, mais ça peut être le cas un peu partout. Et du coup, en fait, on cherche à avoir la logique inverse. Donc nous, on fait de ce qu'on appelle un design, hein, l'approche de design, c'est-à-dire de conception d'aménagement. On n'est pas juste sur des solutions d'itinéraire technique. Souvent, c'est ça en agronomie. Bah voilà, on implémente les couverts végétaux. On est souvent sur des travaux à la parcelle, que ce soit en agronomie ou en agroforesterie, on est souvent sur un travail à la parcelle où on essaie d'avoir justement cette vision d'ensemble, notamment parce qu'on prend en compte les chemins de l'eau, quoi. Donc, il y a un premier travail autour de la topographie, de la cartographie pour voir comment ce sont les reliefs, comment s'écoule l'eau d'un point de vue naturel, d'un point de vue artificiel, hein, parce que souvent ça a été très artificialisé, il y a des fossés, il y a des drains, il y a des chemins de l'eau naturels et artificiels. Et donc là, on commence à voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre justement pour ralentir l'eau, infiltrer l'eau, retenir l'eau. Éventuellement, si c'est de la création de parcelles ou de la réimplantation, ben on voit comment peut-être réimplanter autrement qu'en droit dans la pente, par exemple, mais plutôt implanter avec les reliefs, créer des haies, créer des ouvrages qui vont là aussi retenir l'eau. Et effectivement, à terme, recréer un écosystème, quoi. C'est-à-dire, replanter les tout ça. Donc, l'approche du design agroécologique, hydrologique, agroécologique, agroforestier, tout ça ensemble, encore une fois, parce que tout ça, ça va de pair, quoi. Donc, ça, c'est souvent, on travaille malgré tout avec les acteurs motivés, quoi. Des agriculteurs qui sont motivés, des acteurs qui sont déjà engagés dans une telle approche, quoi. C'est-à-dire qui, en gros, nous, et c'est mon expérience, hein, c'est notre expérience, on évite de devoir convaincre des gens qui sont pas forcément convaincus parce que c'est encore plus d'énergie à mettre en œuvre, alors que c'est déjà compliqué, pas évident à mettre en œuvre. Donc on travaille avec des gens qui sont déjà des agriculteurs, qui sont déjà sensibilisés à l'agroécologie, à toutes ces approches, aux couverts végétaux, et qui veulent aller plus loin dans une logique de design hydrologique notamment. Donc voilà, et souvent il y a un peu un effet boule de neige, et c'est ce qui se passe, et c'est tant mieux aussi, hein, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un essor de l'agroécologie en France, hein, si on pense que ça, agroécologie, agroforesterie. Alors même si ça reste peut-être une portion congrue sur la totalité, depuis 5-10 ans, il y a un vrai changement, il y a de plus en plus de ressources autour de l'agroécologie, il y a d'accompagnement et tout ça, donc il y a un vrai, on va dire, engouement, si je peux me permettre, autour de ça. Donc quelque part, on vient aussi accompagner ce genre d'acteurs, et il y a besoin aussi de gens qui savent, qui puissent accompagner sur ces approches, et notamment dans l'approche systémique. Donc voilà, on a de plus en plus donc d'acteurs comme ça, et puis autour du monde de l'agriculture ou para-agricole, quoi, puis aussi de la formation, hein, c'est un point important. Moi, je fais de la formation sur ces enjeux, et ça va de pair, hein. Il y a besoin aussi que les gens, les agriculteurs soient formés. Moi, j'en forme régulièrement, et c'est souvent autour de ces approches, notamment de la gestion de l'eau, quelque chose qui est nouveau pour eux, qui est du bon sens, hein, genre ils se rendent compte que c'est pas mal du bon sens, que c'est pas non plus, c'est du bon sens, mais ça s'improvise pas non plus, hein, c'est quand même un peu technique, et ils sont contents de découvrir ça parce que du coup ça les fait repenser autrement. Comme de toute façon l'agroécologie fait penser autrement, là ça fait penser autrement pour dire bah ouais, et des fois ils se rendent compte d'ailleurs qu'ils ont pas commencé par la bonne case, quoi, c'est-à-dire ils ont planté leur haie alors que s'ils avaient su ils auraient peut-être planté leur haie autrement parce qu'il y a aussi du ruissellement, de l'écoulement, ils auraient pu gérer l'eau, quoi. Donc c'est des petits exemples qui montrent que ça amène toute une logique, et effectivement qui est important de prendre en amont, le plus en amont possible, pour pouvoir penser global, penser systémique, et avoir une action d'autant plus efficace, quoi, hein. Si on plante une haie droit dans la pente, c'est pas le même effet que si on la plante en perpendiculaire à la pente, quoi, d'un point de vue des écoulements, de l'infiltration de l'eau, quoi. C'est un petit exemple, mais c'est cette logique. Et donc c'est Donc ça, c'est à l'échelle, on va dire, parcellaire, agricole, enfin de la ferme. Mais l'enjeu, et c'est là on est en train d'arriver petit à petit à ce niveau-là, c'est effectivement les collectivités, quoi. Donc, les entreprises, oui, dans le sens où c'est des entreprises agricoles qui ont des enjeux sur à l'échelle de surface agricole. Mais à terme, ce qui va être vraiment important de toucher, c'est les collectivités. C'est justement là où il y a un enjeu à l'échelle du territoire, voire du bassin versant, des bassins versants, parce que toutes ces logiques d'hydrologie régénérative et quelque part de transformation des paysages pour faire le lien avec le poste du début, là, il s'agit effectivement de remailler, de remettre des haies, de refaire un maillage agroforestier, agroécologique, et idéalement de le penser avec en fonction des reliefs et donc à l'échelle des bassins versants, quoi. Et donc comme on travaille à l'échelle des bassins versants, c'est d'autant plus pertinent de travailler à ces échelles. Et effectivement, il y a besoin de travailler avec les acteurs qui sont autour de des bassins versants, c'est-à-dire les collectivités locales, les syndicats de bassins versants, cet écosystème d'acteurs qui est en lien, en interface directement avec et les paysages, et les agriculteurs, et les cours d'eau, et tout ça, qui des fois sont chacun un petit peu dans des limites, peut-être un peu trop encore, dans des sectorisations. Et là, il y a un vrai enjeu, effectivement, et on pousse la réflexion dans ce sens-là, à faire un re-remembrement, ou plutôt un remembrement hydrologique et agroforestier, c'est-à-dire, effectivement, comme il y a eu dans les années 40, 50, 60, plutôt 50-60, une grande politique nationale orientée vers la production alimentaire, et tant mieux, d'une certaine manière, ça a marché. Donc, ça, c'est donc le remembrement avec tous les défauts que ça peut avoir eu, ça a eu l'intérêt de montrer que si on a une vraie politique volontaire pour transformer les paysages agricoles pour une fin, eh ben, on peut le faire, quoi. C'est l'exemple que ça a été fait. Et on peut, et c'est pas infaisable, quoi. Donc, quelque part, il y a un vrai enjeu, hein, et on posons la question comme ça, et posons-la sérieusement, de faire ou refaire, de penser une forme de re-remembrement, en tout cas, de remembrement hydrologique et agroforestier et agroécologique d'une certaine manière, pour penser à grande échelle, et l'organiser, et dans des visions aussi qui vont être pour le bien-être de l'humanité. Il ne s'agit pas de remembrer pour exproprier ou s'accaparer des terres, quoi. Il y a des enjeux en parallèle de ça. Mais remembrer, en tout cas recréer du parcellaire agricole, du parcellaire paysager, un maillage paysager, autour encore une fois, dans cette vision eau, arbre, sol, quoi. Pour là aussi retenir l'eau, infiltrer l'eau, recréer ces territoires éponges dont on va avoir sacrément besoin pour par rapport aux effets climatiques, quoi. Donc voilà, l'autre enjeu, c'est le collectif.
Pour revenir à l'agriculteur qui ont un métier difficile, une fois sur deux ils sont à moins de 10 ans de la retraite. Et là on arrive, il y a un tout nouveau paradigme qui nécessite de repenser pas mal de choses. Alors, il y a pas mal d'avantages à tout ça. Alors, sans être du tout exhaustif, il y a des avantages type réduire tous les coûts liés à l'eau, donc que ce soit acheter de l'eau ou payer les dégâts des sécheresses et des inondations. Il y a aussi dans cette démarche globale d'agriculture et d'hydrologie régénérative, il y a moins de temps de travail et moins de dépenses de gasoil au sens. Alors ça, c'est un poste de Sébastien Rumgus, tout le monde devrait suivre, donc le patron de Biosphère. Le travail du sol, c'est 40% du temps de travail de l'agriculteur et 70% de la consommation de gasoil. Donc bon, ça donne quand même une idée. Bon, bref, c'est important. Réduire aussi, en jouant davantage sur la fertilité naturelle du sol. Donc forcément, j'imagine, c'est un peu moins de dépenses d'engrais, etc. Bon, cependant, il faut quand même investir un peu de coûts à se former, mais aussi au quotidien. Entretenir des haies, entretenir des terrasses, entretenir tout le design au quotidien, c'est aussi, j'imagine, il faut recruter des gens, etc. Globalement, je ne vais pas demander quels sont nos retours d'expérience sur les équilibres économiques, mais comment réagissent les producteurs face quand même à, je ne dirais pas l'immensité de la tâche, mais quand même, en face, c'est quand même certains coûts, sachant que leurs équilibres économiques sont déjà assez fragile, donc ouais. Comment ils réagissent.
Tout à fait. Alors là aussi, il y a plusieurs choses. Donc effectivement, Sébastien Bromégou, c'est une personne à suivre. En effet, lui, son levier d'action avec son groupe, c'est autour vraiment de l'agronomie des sols, quoi. Et évidemment, c'est le premier levier aussi, hein, et c'est l'objectif quelque part, c'est que des sols soient renforcés. On fait tout ça pour que nos sols soient en capacité d'être fertiles, quoi. Et effectivement, c'est du coût à investir. Nous, alors plusieurs choses déjà. Quand on design comme ça, faut pas le voir non plus comme c'est pas des choses qu'on met en place nécessairement, des ouvrages ou des. Enfin, il y a d'abord une logique de faire au simple. Donc, c'est-à-dire concrètement, quand on est sollicité par un agriculteur, on réfléchit en même temps à la fois aussi et surtout avec ses contraintes, ses limites, ses itinéraires techniques, son matériel, pour trouver la bonne équation entre lui, ses contraintes, et pour autant faire aménager avec une logique qui permette justement de retenir l'eau, de recréer du sol et tout ça, quoi. Essayer de combiner les deux. Il s'agit pas d'arriver de dire bon bah là il faut que tu changes tout parce que ce sera mieux si tu fais avec des mares, des retenues, des haies en travers de la pente alors que le tracteur y verse. Enfin voilà, il y a ce genre de considération à avoir. C'est pas ça s'improvise pas. Donc c'est effectivement un des gros enjeux parce qu'on sait très bien que oui, que la pression est importante sur les agriculteurs. L'autre enjeu, c'est de toute façon, c'est la logique de voir, et en tout cas nous comprendre, que pour ça, pour remettre de l'aspect écosystémique, que ce soit pour l'arbre, la biodiversité, l'eau, tout ça, il y a besoin de, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, resacrifier un petit peu d'espace, quoi. Et c'est-à-dire que, voilà, pour replanter une haie avec qui fait 2 mètres de large, eh ben, il y a besoin de renier un peu sur les parcelles, quoi. Et les agriculteurs qui s'engagent dans ces approches, ils le conçoivent, ils le savent, ils savent que à ce qu'ils perdent, et des fois c'est un pourcentage pas infime, mais en tout cas pas très important de surface, à ce qu'ils perdent, ils vont gagner par court, moyen, long terme sur d'autres choses, notamment sur l'aspect microclimat ou biodiversité. Donc là aussi, il y a clairement cette vision à avoir de, on ne pourra pas se passer. À l'échelle des paysages agricoles, de re-sacrifier, ce mot est vraiment entre guillemets, un petit peu d'espace pour réinstaurer toute cette approche à la fois hydrologique, pour remettre de l'eau et des points d'eau très régulièrement dans le maillage, dans le parcellaire agricole, et à la fois des arbres, des haies autour des parcelles agricoles, quoi. Donc ça redemande de sacrifier un peu. Tu vois, c'est là où la case du remembrement a été loupée, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des, on a, il y avait ça à l'époque, en fait. Avant, il y avait dans les bocages, il y avait
Pour incarner ça, c'est assez incroyable. J'ai vu des vidéos d'archives du ministre de l'Agriculture de l'époque, donc années 60, qui chaque année venait annoncer triomphalement à la télé: cette année encore, nous avons supprimé 10 000 km de haies, ce qui équivaut à 10 000 hectares de surface rendue à la production alimentaire. C'était les conceptions de l'époque. C'était les
représentations.
Il y avait une certaine logique, c'est pas le propos. Mais voilà, c'est quand même.
Tout à fait, ouais. C'est très critiquable, hein, faut être clair. Mais du coup, oui, c'était une vision, une logique. Et effectivement, et on a tout mis à plat. Donc on a enlevé des haies et on a asséché, on a drainé. On a drainé des zones humides. Donc quelque part, l'eau et l'arbre, la végétation. En fait, ce qu'on a à un moment donné mis à plat, eh ben, il s'agit de le remettre. Donc, et là, maintenant, sûrement, de le remettre, pas comme c'était avant, exactement, mais de trouver la bonne combinaison, avec des pratiques et des approches agricoles qui sont ce qu'elles sont maintenant, quoi. Même s'il y a certainement besoin aussi de décroître ou de ralentir un petit peu en termes de machinisme et tout ça, parce que de toute façon il y aura probablement à un moment donné des incompatibilités entre la régénération des sols et la productivité des sols et du machinisme trop tout, quoi, trop puissant, trop lourd, tout ça. Donc il y aura des bonnes combinaisons à trouver, mais avec ce vrai enjeu de remettre de l'eau, des arbres, tout ça, et donc c'est de reformer reformer le parcellaire agricole qui reste, même si ça a été remembré, c'est ça qui est paradoxal, c'est extrêmement morcelé, ça reste extrêmement morcelé. Nous, on s'arrache souvent les cheveux sur des accompagnements de design parce que on se retrouve voilà parcellaire avec des parcelles là, une parcelle là qui s'arrête, qui prend pas du tout en compte le relief. Hein, souvent ces parcellaires c'est issu de d'historique familial ou d'historique de roman-maman qui prend pas du tout en compte les reliefs de les topographiques. Donc effectivement à un moment donné il y aura sûrement cette logique de au mieux au plus précis dans selon le contexte encore une fois de remettre en place ça, de rejoindre des corridors existants, des bosquets existants, de remettre en eau des cours d'eau qui ont été busés, qui ont été enterrés à un moment donné, d'en recréer, donc effectivement de sacrifier 1, 2, 3% de la surface agricole notamment pour remettre en place ça et de manière continue quoi. Il s'agit pas de faire des îlots ponctuels, mais l'enjeu c'est de
disons dédié plutôt que sacrifié, comme ça c'est moins
oui dédié, merci, effectivement dédié sera le
dédié plutôt que sacrifié
dédié le, et voilà le terme beaucoup plus
je vais pas faire la police des mots dans un domaine que je connais mal mais... écoute non mais merci beaucoup Simon, je pense on peut s'arrêter là, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais en tout cas merci pour toutes ces explications, vraiment très claires, et c'est un sujet passionnant. Enfin, j'espère que vous, auditeurs, avez appris des choses, en tout cas, c'est mon cas. N'hésitez pas à partager avec vos proches, vos collègues, si cela vous a plu et que vous avez trouvé ça utile, et puis voilà, diffusez la bonne parole. N'hésitez pas à vous rapprocher de Simon, si vous pensez pouvoir le mettre utilement en relation avec des acteurs que vous connaissez, soit via son association, soit via son bureau d'études. Et en tout cas, Simon, je te dis à bientôt.
Eh ben, merci Cyrus, et à bientôt, et au revoir à tous.
Au revoir.